Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Un jour, il y a un jeune homme qui peut être un petit peu téméraire, on peut le qualifier de cette manière, disait avec légèreté cette parole « J'ai bien des mauvaises habitudes, il y a des choses qui ne vont pas forcément toujours dans ma vie, mais quand je voudrais, si j'en prends la décision, je saurai me débarrasser de mes vieilles habitudes. Voilà, ce qui ne va pas, eh bien, je réglerai ça en temps voulu, comme cela me plaira et quand cela me plaira. » Il y avait un homme qui avait entendu finalement les propos de ce garçon, qui était là dans la proximité et qui va lui répondre tout simplement, « Mais, jeune homme, je voudrais vous demander quelque chose, si vous le permettez. Voulez-vous arracher cette petite plante qu'il était en train de désigner ?» C'était une petite herbe comme ça qui était là sur dans la rue ou dans l'allée, tout simplement. Alors, le jeune homme va lui répondre à ce monsieur très aimable, il va lui dire « Mais c'est très facile. » Et d'un revers de main, eh bien voilà que la plante est sortie de terre. Il va lui montrer. Regardez. Vous voyez, je suis fort. Je suis quand même capable, naturellement. Et puis ce monsieur a repris tout simplement la parole et s'est adressé encore au jeune homme en lui indiquant « Vous voyez le buisson qui est ici ? Eh bien, moi je voudrais que vous le déraciniez, ce buisson. » Ça, c'est encore une autre question. Et cette fois-ci, le garçon ayant bien compris et bien vu ce qui lui était demandé, alors il a dit « J'y vais, pas de problème, on va voir un petit peu », mais il a dû mettre ses deux mains, et puis finalement, après un certain temps, il est venu à bout de l'arbuste, mais qu'à grand peine. Et on peut s'imaginer qu'il est en train de s'essuyer le front en disant « Ben voilà, j'y suis arrivé quand même, voilà, j'y suis arrivé ». Et puis le monsieur reprend encore une troisième fois et puis lui dit « Tiens, voilà un arbre. » Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et le monsieur lui dit « Mais j'aimerais, jeune homme, que vous puissiez me sortir cet arbre du sol. » Alors le garçon, il était blême. Voilà, terrorisé, effrayé, et devant naturellement ce qu'on lui demandait, parce que c'était quand même un effort surhumain, déraciner un arbre. Ça, c'est quand même pas une petite chose, hein. Alors, il est en train de regarder du tronc jusqu'au sommet. Il faisait peut-être au moins 15 mètres. Il faut déjà avoir un petit peu le correspondant. Et il se tourne avec un air complètement désabusé. Il dit, mais c'est impossible, monsieur. Comment voulez-vous que j'arrache un arbre? Alors, il y avait déjà la petite plante. Il y avait déjà l'arbuste qui était déjà parti. Mais l'arbre, c'est tout bonnement impossible, naturellement. Alors, si nous en tirons peut-être une morale ou une petite conclusion, eh bien, nous pourrions dire que quelquefois, et à l'image de ce garçon, on ne mesure pas le temps. Oui, on ne mesure pas assez le temps qui nous est donné et la valeur des choses qui, lesquelles, se sont enracinées tout simplement à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on les regarde en disant « petite plante, petit arbuste, mais un arbre ». Et c'est vrai que c'est une leçon qui peut avoir certainement sa réalité, sa valeur encore aujourd'hui, c'est que il y a tantôt des habitudes. Il y a parfois des caractères entre nous, des mauvais caractères. Il y a parfois des habitudes de langage où nous ne nous apercevons plus que nous parlons comme tout le monde, mais c'est pas parce que tout le monde parle ainsi, je parle en grossièreté, en vulgarité, que c'est bien. Mais c'est la mode. Il y a quelquefois des choses dont nous ne sommes pas toujours conscients et qui font que ça peut embarrasser les autres. Ça peut même être quelquefois véritablement quelque chose de très agréable. Alors, c'est vrai que ça commence par une petite plante, ça devient un buisson, puis à un moment donné, ça devient un arbre. Mais on ne sait plus que c'est un arbre, on ne le voit plus. Vous voyez ? Parce que bon, c'est tellement monstrueux, c'est tellement gros. Et je crois que toutes ces mauvaises choses, on les appellera habitudes, on les appellera quelquefois des manies, tout ce que vous voulez mettre. Toutes ces choses, ce que nous aurions dû faire et que nous avons négligé parce que nous le savions. Quelquefois, Il y a des femmes qui disent à leur mari « t'as mauvais caractère ». Quelquefois, ça peut être le contraire. Hein. Faut faire l'équilibre. Hein. Et « bon, non, j'ai pas mauvais caractère, hein. C'est toi qui prends mal les choses ». Quelquefois, en disant « tu parles mal ». Voilà. Vous voyez, quelquefois, hein, et on apprend de mauvaises choses hein, dans la vie à l'extérieur. Les enfants, quelquefois, apprennent à mal parler à l'école. Parce que vous savez que c'est bien l'école, mais on apprend aussi des bonnes et des mauvaises choses. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que tout ça, ce que nous aurions dû faire au départ, peut-être nous gendarmer, nous discipliner, eh bien, nous avons négligé. Parfois, nous avons négligé des décisions qui, eh bien... nous avons longtemps hésité en disant « mais non, ça passera » et puis ceci et cela, mais à un moment donné, ça devient un arbre. C'est-à-dire que c'est tellement enraciné, c'est tellement ancré, eh bien que nous avons beaucoup de difficultés et nous nous trouvons dans des situations où nous perdons notre crédit, nous pouvons perdre notre réputation, et tout cela pour avoir négligé, pour avoir laissé courir, pour ne pas avoir pris de décision, pour trancher en disant « non, ceci c'est bien, mais ceci c'est mal ». Alors, voilà, c'est la faiblesse humaine. Et on est, pardonnez-moi, mais on est tous quand même, sur un point ou sur un autre, on est faible. Hein? Je crois que, on voit les grands personnages de la Bible, on dit les grands personnages, on dit les grands hommes de Dieu, mais ils ont tous eu, à un moment ou à un autre, quelquefois quelques petites plantes qu'ils ont laissées pousser, et c'est devenu tout simplement eh bien, des arbustes bien ancrés, et parfois aussi c'est devenu des arbres, et même parmi les meilleurs. Alors, je crois qu'il faut dire, enfin, faut faire attention à ne jamais dire « quand je voudrais, je pourrais ». Ah oui. Parce que quelquefois on le dit avec tellement de légèreté, tellement de superficialité. Vous savez, moi, quand je prendrai la décision, quand je voudrais, mais je pourrais, il n'y a pas de problème. Or, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas, finalement, eh bien là, attendre de ne plus pouvoir pour vouloir. Comprenez, les choses sont mises un petit peu à l'envers. Moi, je voudrais vous parler d'un homme qui était un grand homme, qui est certainement encore un grand homme dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Pierre. Pierre, il avait des qualités. Il était, comment dire, fervent. Il était impétueux, brûlant, ouais, pour Jésus. Mais il avait le défaut de ses qualités. Vous savez que ça peut arriver d'avoir le défaut de ses qualités? Eh oui, parce que parfois c'est poussé un peu trop loin et puis ça devient problématique. Et on peut en souffrir, hein. Mais permettez-moi de dire que nous pouvons en souffrir nous-mêmes et je voudrais quand même dire que les autres en souffrent peut-être encore davantage que nous. Parce que si nous laissons passer les occasions, si nous laissons passer les situations, bon, on pourra toujours se consoler avec soi-même, être complaisant avec soi-même, puis on voit pas que la plante elle est en train de pousser. Et vous savez que c'est difficile quand un vieux chêne est parti de travers, quand il a fait de l'écorce, pour le remettre droit, on peut toujours y aller. Hein. D'ailleurs, merveilleux, dans les jardins publics, hein, quand il y a des arbustes qui sont plantés, il y a toujours un tuteur à côté. Puis au bout d'un certain temps, le tuteur, il n'en a plus besoin parce que il a poussé droit cet arbre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans l'éducation des enfants pour devenir des adultes, dans la manière d'être dans le couple ou dans la famille. Également, dans l'Église, il y a des choses qui ont vraiment besoin eh bien, de prendre la bonne direction, c'est-à-dire de pousser droit, si vous voulez. Parce qu'il en va de chacun d'entre nous. Hein, et il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des courbures, il peut y avoir des méandres, hein, toutes sortes de choses. Mais n'attendons pas de dire « quand je voudrais, je pourrais », parce que peut-être qu'il arrivera un temps où nous voudrons vraiment, mais que nous ne pourrons plus, parce que la tendance est partie dans l'autre sens. Alors, on va dire quelques mots sur notre ami Pierre. Pierre, il est très intéressant, parce que il nous donne envie de suivre Jésus, mais il ne faut pas suivre Pierre partout. On peut suivre Jésus partout, mais Pierre, si on le suit, on risque, on risque de marcher sur les eaux quelques secondes, et de couler. Voilà. Alors moi je voudrais vous proposer maintenant Matthieu chapitre 26 verset 33, on va lire ça et ça va illustrer un petit peu notre précédente histoire où j'aperçois, si je peux donner une qualification, je trouve Pierre quand même téméraire et puis je le trouve imprudent aussi. Voilà. Parce qu'il dit des choses qu'il croit qu'il va pouvoir tenir et finalement il va être emporté comme un fétu de paille dans un grand vent. Alors, Matthieu chapitre 26 verset 33, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, même si tu étais pour tous une occasion de chute, dira-t-il, tu ne le seras jamais pour moi. Ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Les proverbes, ça sert à quelque chose. Voilà. Il y a des gens qui disent, moi, je te le jure. Oh, c'est pour chrétien, hein. Puis après, on s'aperçoit que, comme celui qui construit une tour ou une maison, et qui est très fier de dire, regardez mes voisins, regardez mes amis, regardez, je suis riche, j'ai toutes sortes de qualités, je vais faire une belle maison. Et encore, vous verrez, elle sera plus belle que la mienne. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Il a même pas pu la terminer. Et les autres, il nous est dit dans la parabole, que tous les voisins vont se mettre à rire. Attention jamais! Attention à la fontaine! Ouais. Alors, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus va lui répondre ces paroles. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, oh, il n'a pas compris, hein. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mais comme Pierre est un leader, il emmène tout le monde derrière lui. Et tous les disciples dirent la même chose. Jésus leur avait dit quelque chose pour ça. Jésus leur avait dit tout simplement auparavant, eh bien, je serai une occasion de chute. Cette nuit même, que, eh bien là, on viendra frapper le berger et les brebis se disperseront de droite et de gauche. Et quand je serai ressuscité, eh bien, je vous précéderai en Galilée. Ça avait scandalisé les disciples. Et il y a Pierre qui prend la parole, finalement, eh bien là, au nom de tout le monde, il parle au nom de tout le monde, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais apparemment tout le monde était d'accord. Il dira, mais jamais une chose comme ça ne t'arrivera. Et puis même, si ça devait t'arriver, moi je prends mon épée, et malheur aux oreilles de Malchus. Vous avez des oreilles? Ben faites attention qu'elles ne tombent pas vos oreilles. Hein. Parce que quelquefois on prend des engagements qui peuvent être préjudiciables. Alors, c'est bien ça le problème. C'est le problème des engagements que nous prenons. Pourtant, il a des qualités, notre brave Pierre, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous voyez hein, que le Seigneur est bon avec lui parce que il va aller au bout de sa démarche. Il va renier Jésus. Il va dire qu'il ne le connaît pas alors qu'il a passé 3 ans avec lui, vous vous rendez compte? Qu'il a vécu des choses extraordinaires, qu'il a vu des miracles, des choses surnaturelles. Et il va dire, mordicus, ben moi je connais pas cet homme. Et là, il va y avoir des gens qui vont venir à la charge en disant, mais tu n'es pas avec lui, on te reconnaît à ton accent. Ouais. Non, non, je connais pas du tout. Puis il commence à se fâcher, hein, Pierre, à ce moment-là. Et puis il y en a un autre qui vient, un serviteur du sacrificateur. Mais toi aussi, tu es de ceux-là, tu étais avec lui, nous t'avons vu. Remarquez, c'est vrai que c'était assez visible de voir Pierre à côté de Jésus, hein, parce qu'il était toujours là, mais toujours est-il que, non, non, il va renier jusqu'au moment où là, il va se souvenir de cette parole, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » 3 fois, Pierre l'a fait. Hein. Et pourtant, quand on lit ces paroles, mais, comment dit-on, il monte sur ses grands chevaux. Oui. C'est ça ce que l'on dit, hein, quand les gens se veulent pas être contrariés, ils ne veulent pas être, hein, ils veulent pas supporter la contradiction. Bien sûr que c'est la vérité. C'est la vérité ce que lui dit Jésus. Mais il s'offense à ce moment-là. Et vous savez l'offense, hein, quand elle est mal placée, ses cousins germains, enfin moi je connais rien dans la famille, mais ses cousins germains quand même de l'orgueil. Hein. Et Pierre dans cette affaire c'est un orgueilleux. Et c'est son orgueil qui le fait parler. Mais tu sais que je t'aime. Ah oui. Ça, c'est une autre affaire. Oui, tu sais que je te suivrai partout. Et quand bien même, finalement, eh bien, s'il faut aller jusqu'à la mort, mais Pierre, tu ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort? Tu sais comment je vais mourir? Tu connais la coupe que je vais prendre? Et Pierre qui va surenchérir en disant, mais de toute façon, rien ne m'arrêtera. J'irai jusqu'au bout avec toi. Très bien, Pierre. Tu vas voir. Tu vas comprendre, naturellement. Tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. Il n'y a pas de problème. Ma foi. Ma confiance en toi, elle est inébranlable. Ah oui, elle est inébranlable. Vous savez qu'il y a une autre parole que je vais vous restituer tout simplement, qui est celle-ci. Écoutez bien, tout simplement. Paul dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout, vous êtes bien assis là, hein? Attachez les ceintures maintenant. Ouais, parce qu'il va y avoir du tangage, hein. Eh oui. Il y a des gens qui le font dans l'inconscience de ce qu'ils disent. Il y a des gens qui le font dans la méconnaissance des conséquences. Et il y a des gens qui le font par vantardise, pour se faire valoir auprès des autres. Eh oui. Si je vous dis qu'en 2017, votez donc pour moi, je me présente à la présidence à la présidence de la République. Vous y croyez? Oh, dites-le-moi, ça me ferait plaisir. Oui. Oui, ça me ferait plaisir. Non, parce que ça serait d'abord complètement irréel. Moi, je suis alors là, vraiment, mais vraiment, vraiment de vraiment, incapable. Et puis d'un autre côté, vous seriez embarrassé d'avoir un pasteur qui serait la présidence de la République. Je serais toujours ministre du culte. Mais quand même, quand même. Mais il y a des gens comme ça qui lancent des annonces, qui font des effets de manche, voilà, en disant il y a ceci, cela, etc., etc. Et on sait très bien que tout cela, ça va pas aller très loin. C'est tout simplement, eh bien, parler pour parler, mais il n'y a rien derrière. On comprend le Pierre quand il parle de cette manière, mais Seigneur, je t'aime. Mais c'est pas de dire que l'on aime à quelqu'un, c'est de le prouver. Et puis, c'est vrai que il y a quelquefois des choses, des impondérables, toutes sortes de choses. Vous savez ce que la Bible nous dit? Ce que Dieu prend son plaisir dans l'homme ou dans la femme qui dit une parole et qui la tient. En connaissance de cause. Et de pas parler pour rien et puis de dire après, voilà, je peux pas. Non. C'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand nous lisons cette parole, quand il est dit tout simplement, mais que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors là, s'il s'agit non seulement de la témérité, de l'imprudence, mais j'appellerais ça tout simplement de la suffisance et de la présomption. Alors c'est encore des, hein, tout ça, c'est pas des qualités naturellement, mais bon, ça fait partie de l'humanité, puisque la suite est ainsi. Aucune tentation, aucune épreuve, aucune provocation, aucune tribulation et tout ce que vous voulez, aucune persécution, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que Dieu va nous donner la mesure de ce qu'il nous connaît, de ce qu'il sait. Pierre ne se connaissait pas parce qu'il s'était vraiment connu, il n'aurait pas prononcé ces paroles. Et pour nous-mêmes, eh bien, Dieu nous connaît. Et c'est vrai que quelquefois, dans certaines situations de détresse ou de désespoir nous concernant, eh bien, le Seigneur ne permettra que l'épreuve dans laquelle parfois nous nous engageons nous-mêmes n'aille pas au-delà de nos forces, parce qu'il nous connaît. La situation qui est présentée dans la Bible et qui est admirable, c'est celle de Job. Job ne dit rien. Bon, il va être entraîné dans un tourbillon infernal, parce qu'il y a un défi. Sa tête a été mise à prix dans les lieux célestes. Seras-tu fidèle à travers, finalement, eh bien, tout ce que tu vas connaître, Job? Dieu a confiance en Job. Et Job, malgré tout, a confiance en Dieu. Il nous est dit qu'il n'a pas prononcé une seule parole à la fin du dernier verset du chapitre 2. Aucune parole contre Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ah, on est loin de Pierre, là, hein? Et pourtant, on ne peut pas dire que Pierre était un mauvais garçon, mais il parlait sans savoir. Et quelquefois, nous parlons aussi sans savoir. Et nous parlons parfois sans nous connaître. Pierre ne se connaissait pas. Job a certainement appris à se connaître à travers ses épreuves, mais aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, parce que Dieu est fidèle. Et il connaît notre fragilité. Il connaît notre vulnérabilité, et il nous a dit qu'il est fidèle, et parce qu'il est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez provoqués, que vous tombiez dans le propre piège dans lequel vous vous êtes vous-même enfermé, en quelque sorte. À travers, eh bien, là, votre véhémence, à travers des promesses insensées, à travers des promesses dangereuses, comme Pierre, par exemple. Mais avec la tentation, il préparera le moyen, tout simplement, d'en sortir, et que vous puissiez, tout simplement, la supporter. Eh oui, il y en a eu d'autres comme ça. Hein. Moi, je pense à Saül, le premier roi d'Israël. Ah, il était bon lui aussi, hein. Très bien. Pourtant, Dieu l'avait choisi, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et pourtant, lui aussi voulait aller plus loin que ce qui lui était permis. Mais lui, il a complètement déraillé à la place de Pierre. Enfin, en ce qui concerne Pierre, il se repentit, il a pleuré amèrement d'avoir parlé trop vite, d'avoir pris des engagements qu'il ne comprenait pas, dont il ne connaissait pas la mesure. Et surtout la douleur et la souffrance et les conséquences. Mais Saül, lui, il s'est dit, maintenant je suis roi, je suis Dieu. Ah, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui se prennent pour Dieu, hein, alors que notre souffle ne nous appartient pas. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Une fleur qui passe. C'est une vapeur qui disparaît. Vous connaissez, hein, la Bible, hein? Eh bien voilà. Et je pense que c'est une leçon de grande modestie qui nous est donnée. Moi, je crois que Dieu bénit l'homme, la femme, lorsque nous sommes véritablement humbles devant lui, que nous sommes modestes, hein, que nous n'ayons pas non plus la folie des grandeurs. Parce que les grandeurs, c'est Dieu. Nous sommes dans notre condition d'humiliation, et il ne faut pas se prendre pour Dieu. Et vous savez, le monde, si ça va si mal, on le voit, hein, on a des choses qui défraient la chronique tous les jours, hein, et ça termine en catastrophe, hein, parce que les hommes pensent savoir et connaître, et ils ne connaissent rien. Et ça, c'est terrible, et c'est les autres qui en souffrent, hein. Vous savez, il y a eu des choses qui se sont passées dans l'histoire, et même l'histoire récente, de gens qui étaient tellement convaincus, c'était des fanatiques. Vous ne pouvez pas me dire que ce qui s'est passé en Allemagne, il y a 80 ans maintenant, c'était pas du fanatisme. Oui, faire un monde nouveau en tuant les autres pour avoir une race pure, éliminer avec une véhémence, une folie de paroles, de propos qui ont emmené un peuple qui était médusé et qui acclamait finalement l'individu et son discours. Ah oui, je vous promets 1000 ans de bonheur. Moi, je vous donnerai 1000 ans de bonheur. Ça, c'était la théorie du nazisme, naturellement. Parce que c'était l'équivalent des 1000 ans, tout simplement, qui sont annoncés par la Bible. Antéchrist, hein. Antéchrist. On ne peut pas dire autrement. Et pourtant, les gens ont marché derrière. Et le sang. Comment? Des torrents? Non. Des rivières de sang. Des fleuves. Un océan de sang. En l'espace de quelques années. Terrible. Voilà les conséquences. Parce que il y a Dieu qui est le Dieu de la vérité, et il y a le diable qui est le prince et le père du mensonge. Et il est meurtrier depuis le commencement. Alors, comment ces petites choses, comme nous l'avons vu précédemment, en pensant que nous pouvons finalement, eh bien, arracher une herbe, à la limite encore arracher un arbuste, puis nous nous trouvons devant un arbre, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Non, je ne peux pas, c'est impossible. Alors, si nous ne pouvons pas, ne disons pas que nous pouvons. Parce qu'à un moment donné, eh bien, nous n'aurons pas le pouvoir, finalement, de revenir en arrière pour essayer de rattraper les choses. Vous voulez encore une autre petite histoire? C'est bien. Moi, ça me plaît, ça, raconter des histoires. Voilà. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est l'après-midi, il fait chaud. Je voudrais quand même vous demander, ce ne sont pas des histoires pour vous endormir. L'œil ouvert, surtout les oreilles. Pour vous dire, et vous écoutez bien les enfants, vous allez voir, c'est super. Dans certains endroits du monde, et particulièrement en Amérique, mais il n'y a pas qu'en Amérique, hein, vous savez, du côté des montagnes rocheuses par là, dans l'est des USA, il existe des arbres qui sont très vieux et très grands. Alors, on nous dit qu'ils ont parfois 1500, 2000 ans d'existence. Ils sont un peu plus âgés que nous, enfin bon. Et puis, ils sont très grands, jusqu'à 80 mètres, d'après ce que je crois. On les appelle comment? Les séquoias. Ah ouais, alors, j'ai vu des photos. C'est assez particulier parce que je crois qu'il faut quelquefois 10, une vingtaine d'hommes pour faire le tour. Alors, évidemment, quand vous voulez monter dedans et que... Là, il faut avoir les bras larges, hein, enfin le bras long, en tous les cas. Hein. Ce sont les séquoias. Vous savez ce que c'est, les séquoias? Vous avez déjà vu ça, hein? Ceux qui ont voyagé, là, il y en a qui ont fait le tour du monde. Voilà, c'est gigantesque. Déjà, est-ce que vous avez vu un baobab? Ouais, c'est quelque chose d'impressionnant, mais c'est pas très haut, hein, c'est pas toujours... C'est quand même assez impressionnant. Alors, c'est surtout le tronc, hein, qui est énorme. Nous, quand on a été faire un tour dans l'océan Indien, il y en avait partout, des baobabs. C'est vraiment très impressionnant parce que ça n'a rien à voir avec nos peupliers. Même s'ils sont bien droits, ils sont un peu pliés, naturellement. Alors le baobab, c'est ça, hein, c'est très très grand aussi. Et puis, un jour, figurez-vous, un des séquoias, gigantesque, certainement, eh bien, très très vieux, est tombé par terre dans un bruit assourdissant. Mais c'était un tonnerre, hein. Oui, parce que si haut, si vieux et si grand, ça fait du bruit. Pourtant, les gens, quand ils regardaient, disaient « Mais on ne comprend pas qu'il soit tombé. C'est pas possible. Comment se fait-il que cet arbre que nous avons toujours vu, bien sûr qu'il l'avait toujours vu parce qu'il a vu des générations de séquoias, hein, des gens qui venaient et qui passaient, qui mouraient. Eh bien, ils se disaient les uns et les autres, mais on ne comprend pas pourquoi cet arbre, eh bien, est tombé à un moment comme cela, tout simplement. Cet arbre était tellement solide, il inspirait finalement, eh bien là, encore une vie très longue, il était inébranlable. Alors on a fait venir des spécialistes en botanique, enfin, voilà, dans ces, hein, des spécialistes en arboriculture qui l'ont examiné sur toutes les coutures. Il était couché, il avait écrasé toutes sortes d'arbres tout autour, naturellement, hein, il a fait des dégâts, mais ça, c'était pas le problème. Alors ils sont venus le voir, ils l'ont examiné, ils voulaient savoir absolument ce qui s'était passé, pourquoi il était tombé, c'est normal. Hein. On a fait une autopsie du séquoia, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il faut le dire, dans sa longue vie de géant, parce que bon, il n'y a pas d'autre qualificatif, des dizaines de fois, ce séquoia, des dizaines et peut-être encore davantage, eh bien, avait résisté. Il avait résisté à la foudre, il avait résisté à la tempête, il avait subi des vents extrêmes, il avait toujours résisté, jamais il avait plié. Et à un moment donné, par terre, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette fois-là, il n'y avait pas de vent, il n'y a pas eu de courant d'air, il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de glissement de terrain, etc. Mais cette fois-là, sans raison et sans explication apparente, le roi de la forêt était à terre et il était bien mort. Et il était mort, même déjà depuis longtemps, sans que ça se voit. La question, elle est là. Eh oui, on ne s'était pas aperçu, il avait l'apparence d'être vivant. Mais ça faisait déjà, oh, compte tenu de son âge, ça faisait certainement quelques dizaines d'années qu'il était mort, mais ça ne se voyait pas. Enfin, il y avait encore un peu de verdure dedans, mais on n'aurait pas pu présager qu'il serait tombé. Alors, ces spécialistes ont pris là des mesures, ils ont pris tout ce qui était nécessaire pour faire des investigations, et ils ont regardé de plus près. Et ils se sont aperçus que le grand arbre, ce fameux et ce magnifique séquoia, avait été miné. Alors, c'est pas des mines de guerre, hein, mais il avait été miné par de tout petits insectes quasiment invisibles, tout simplement minuscules, qui, année après année, décennie après décennie, avaient complètement rongé les racines. Eh oui. Vous savez que on fait la guerre, hein, dans nos cultures, à toutes ces petites bêtes là comme ça. Hein. Alors, on met de l'insecticide, l'anti-parasite, etc., etc. C'est pour ça qu'on mange de plus en plus sain, vous avez remarqué. Hein, bio. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades. Des gens disent, mais on a des cancers, on a ceci, cela. Enfin, ça me regarde pas, je suis pas médecin, mais c'est vrai, les gens disent, mais pourquoi? Parce que on a voulu éradiquer finalement la vermine dans les légumes, dans les fruits, dans les arbres, etc., etc. Enfin, on mange pas les arbres encore. Mais en tous les cas, dans les légumes et les fruits, ça c'est certain. Hein. Alors on veut, on est exigeant, nous les consommateurs d'aujourd'hui, parce qu'on veut des fruits bien beaux. Et une pomme sans tache. Et c'est là où vous commencez à avoir des pépins. Vous avez toutes sortes de choses qui sont présentées, des oranges, qui sont, mais alors, très très belles. Et quand vous les mangez, surprise, elles n'ont pas de goût. Ouais. Moi, quelquefois, je m'en prends à mon épouse gentiment, parce que c'est toujours comme ça. Je lui dis, mais pourquoi t'achètes des fruits hors saison? Ça n'a pas de goût. Des bananes, vous vous rendez compte? Qui ont le goût d'asperges. Et puis toutes sortes de choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si... Bon, j'en dis pas plus parce que je pense que je vais rentrer à la maison ce soir, je vais avoir certainement quelques problèmes. Enfin bon, vous prierez pour moi, c'est pas un problème pour... voilà. Alors, ronger jusqu'à la racine nos arbres. Et en un instant, il s'est effondré, notre séquoia. Comme ça, d'un seul coup, vous avez compris. Vaincu par de si petits ennemis, quasi invisibles, mais puissants. Vous savez, hein. On se souvient de notre beau et grand et fort Goliath, qui lui est tombé, tout simplement, avec une petite pierre entre les deux yeux, même jusqu'à casser ses lunettes, par David. Voilà. Tout simplement. Eh oui. Ça va, vous suivez? je vous ai dit de rester là, les oreilles ouvertes, hein, au moins un œil, au minimum. Voilà. Puissant, ces petites bêtes qui ont rongé par l'intérieur, etc. Mais c'était bien réel, on ne les voyait pas à l'œil nu, les spécialistes ne l'ont pas vu du premier coup, c'est après des jours et peut-être des heures, enfin des jours et des heures de considération et d'observation, qu'ils se sont aperçus que voilà la réponse, tout simplement. Alors comme nous l'avons fait dans notre précédente histoire, il y a quand même une moralité dans tout ça. Il y a quand même une réflexion que nous pouvons mettre sur le plan moral et sur le plan aussi spirituel, pour nous dire qu'il y a bien des gens forts, oui, enfin, qui se croient forts, qui parfois s'effondrent. Ils sont capables de faire beaucoup de choses, ils tombent, parce que ce ne sont pas les épreuves qui vont les faire plier. Ils sont forts et ils résistent aux épreuves. Ce n'est pas les épreuves qui vont les renverser ou la tribulation, mais c'est souvent des petites choses au fond de nos vies. J'inclus tout le monde. Au fond de nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos habitudes, dans notre façon peut-être de parler. Je reviens parce que moi je crois que quand même un chrétien se doit de parler le français, mais poliment. Parce qu'aujourd'hui on attend d'intégrer des mots dans le dictionnaire. Vous savez que tous les ans il y a une nouvelle version, ou tous les deux ans, je ne sais plus, hein, signée et contre-signée par l'Académie française, où nous avons des mots maintenant qui étaient hier. Des mots bannis du langage, et qu'aujourd'hui on parle couramment, à tel point que les gens maintenant ils parlent à la manière dont tout le monde parle, mais ils ne savent pas que quelque part ce sont des mots qui sont pas beaux. Hein. C'est important d'utiliser un beau langage. D'ailleurs, moi je crois que, en tant que chrétiens que nous sommes, vous savez, une des premières choses que les gens en entreprise, ceux qui travaillent avec vous, et même votre famille qui ne connaît pas le Seigneur, ils vont d'abord remarquer la première chose, c'est la manière dont vous parlez. Ouais. On parle pas à tort et à travers, mais à partir du moment où vous parlez correctement, ils vont dire, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, il avait des grossièretés. Avant, il jurait. Nous, on a eu un monsieur qui est décédé maintenant quand nous étions pasteurs sur Angers, et un homme qui était connu dans la gare d'Angers, parce qu'il était cheminot, mais il travaillait donc dans la gare. Il était connu pour ses jurons. Il ne disait pas un mot sans jurer. Voilà, je pense qu'il en avait après Dieu, mais toujours est-il que c'est ça. Le jour où il s'est converti, du jour au lendemain, quand il s'est présenté devant ses collègues, plus un mot, plus un juron, plus ses insanités dans sa bouche. Et là, ça a été quelque chose. Ils avaient vu que, vraiment, la bouche avait été convertie avec le cœur. Donc, ce sont des petites bêtes, tout ça. Ce sont des petits renards, vous savez, qui mangent les raisins. Vous connaissez l'histoire dans la Bible, hein. Alors, ça peut être des fautes, naturellement, ça peut être des péchés, on l'a dit, hein, des choses qui sont cachées, des erreurs qui sont répétées, en apparence anodines, mais qui, finalement, eh bien, vont finalement détruire les racines, c'est-à-dire les racines de notre vie. Et, quelquefois, eh bien, ça finit par tourner très très mal. Ouais. Le Seigneur sait qui nous sommes, et je voudrais vous dire une vérité, enfin, une chose que vous savez, mais je voudrais vous le rappeler. Quand le Seigneur nous a appelés, et ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes loin d'être parfaits, d'accord? Nous avons encore des résidus, enfin toutes sortes de choses de notre vie. On le sait, enfin les autres ne le savent pas, mais peut-être nous on le sait personnellement. Ça c'est sûr. Le Seigneur n'est pas venu chercher des fils aînés de la parabole, mais il est venu chercher des fils prodigues. Et le fils prodigue, il n'était pas propre quand il est revenu, hein. Et pourtant son père l'a accueilli. Et chacun d'entre nous, et je voudrais aussi, parce que mon évangile, c'est pas un évangile de culpabilité. C'est un évangile de grâce. Et le Seigneur, quand il nous prend tel que nous sommes. Et on n'y arrive pas du premier coup. Parce que quelquefois, on pleure sur notre misère. On pleure sur nos péchés. On dit, Seigneur, mais pourtant je t'aime. Pourtant, je t'ai fait des promesses. Et puis finalement, on est bien disposé, mais la chair est faible. Et on y vient, on y revient, et on y revient. On croit qu'on a gagné à un moment donné, et on replonge. Ben vous savez, le Seigneur nous dit, bon, tu vas y arriver un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr, on y arrive un jour ou l'autre. Parce qu'il y a la vie, il y a la chair, il y a toutes les impulsions de la jeunesse, etc., etc. Mais ce que Dieu voit, c'est la sincérité de notre cœur. Et quand on pêche et qu'on revient vers lui pour lui demander pardon, eh ben, on repart pour un tour. Et puis, ce qu'il veut nous montrer, c'est que quand on n'y arrive pas, eh ben, c'est qu'on est faible. Et parce qu'on est faible, parce que personne n'est fort. D'ailleurs, Paul le dit, c'est quand je sens ma faiblesse que vraiment, à ce moment-là, le Seigneur me rend fort. Hein. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et moi, je prêche la grâce, je prêche pas le légalisme. Je ne prêche pas, finalement, l'effort humain en disant, Seigneur, je vais te prouver que je suis véritablement un chrétien. Mais le Seigneur n'a pas besoin de nous prouver, puisque Jésus a fait la preuve qu'il était mort à notre place autrement. Ça voudrait dire, t'es mort pour rien, puisque j'arrive tout seul. Le raisonnement, hein. Non. Le Seigneur sait qu'il y a encore quelques petites bestioles, si vous permettez, et puis qui sont en train de ronger la racine et tout ça. Mais vous savez, il n'y a qu'une chose qui va faire la différence, c'est notre foi. Dans ma faiblesse, je m'approche de toi. Parce que le verset qui me plaît de répéter encore, c'est que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a prononcé à la croix le tout accompli. Ceci dit, pour nous prouver encore une fois de plus, c'est que nous restons des êtres faibles. Et à chaque fois que nous revenons vers le Seigneur et que nous lui disons, Seigneur, je ne veux pas te lâcher la main. Tu me connais, tu m'as appelé. Et tu m'as appelé parce que non pas je suis un ange. Vous avez vu, j'ai pas d'aile. Hein. Je n'ai pas d'auréole. Mais tu m'as appelé parce que je suis un pécheur. Et ma vie, finalement, elle ne tient qu'à toi. Elle dépend de toi, Seigneur. Eh bien, le Seigneur, lui, va faire véritablement en sorte que nous soyons guéris de tous, débarrassés de tous ces insectes nuisibles, de toutes ces choses qui appartiennent à notre nature. Et Pierre ne savait pas que quand il disait « Mais Seigneur, je ferai ceci, mais Seigneur, tu peux compter sur moi, je donnerai ma vie, j'irai jusqu'à mourir et tout ça », Pierre fait la preuve qu'il ne se connaissait pas lui-même. Et qui d'entre nous, nous nous connaissons vraiment bien? Il y a que Dieu qui le sait. Et pourtant, nous restons ses enfants. Et pourtant, nous restons, dans cette relation avec lui. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je me sens fort, le Seigneur me dit, fais attention, tu t'appelles Pierre toi aussi, tu t'appelles Samson, tu t'appelles Saül, fais attention, parce que tu penses que tu es, mais tu n'es rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Et on s'aperçoit que toutes ces petites choses imperceptibles, dont le Seigneur sait, qui sont cachées, c'est vrai, quelquefois, nous sommes tellement habitués à notre nature que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Ces erreurs, tout ça d'apparence anodine, peuvent nous mettre par terre. Et c'est ce que nous avons lu, tout simplement, ça ruine les racines, ça ruine les choses. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors voilà mes petites histoires de cet après-midi, mais elles ont quand même un sens spirituel, n'est-ce pas? Moi, je crois que j'ai pas voulu vous faire passer une après-midi agréable, à l'ombre, hein, au frais, non? Non, c'est qu'il y a des réalités derrière. Et vous savez ce qui me plaît chez le Seigneur? C'est qu'il me connaît bien. Et il sait là où il veut me mener. Et quelquefois, je me dis, parce que moi aussi, en tant que pasteur, je suis pas au-dessus des autres, je tiens à le dire, mais quelquefois, je me dis, mais Seigneur, moi j'y arrive pas, c'est difficile pour moi. C'est vrai, quelquefois ça m'arrive de me décourager. Quelquefois, je me dis, mais Seigneur, oh oui, tu devrais me reprendre tout de suite, au moins les choses seraient... Parce que ça, c'est la nature humaine, tout simplement. Mais il y a une chose qui me ramène toujours vers le Seigneur en disant, Seigneur, je regarde pas ce que je suis aujourd'hui. Je sais ce que j'étais hier. Je sais ce que je suis devenu avec toi, naturellement. Mais une chose, c'est que moi, si je ne sais pas, c'est que tu as un plan pour moi. Et avec ta grâce et la foi que tu vas mettre dans mon cœur, je sais que par ta grâce, tu me permettras d'aller jusqu'au bout. Être ce que tu désires que je sois, devenir selon tes plans et tes projets. Alors Seigneur, je te fais confiance, le reste je ne le sais pas. Mais Seigneur, je veux véritablement être dans cette condition de modestie, d'humilité. Et je crois que le Seigneur y arrivera. Et quand nous arriverons les uns et les autres de l'autre côté, nous porterons une image. L'image de Jésus ou l'image que nous aurons permis à Jésus et son Saint-Esprit d'imprimer en nous. Parce que le Seigneur, lui, il y arrive toujours. Et il sait où il nous mène. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Alors vous vous souvenez du séquoia? Et puis essayez de... Vous allez au jardin paysager. Essayez de me déraciner cet après-midi quelques arbres. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable si vous vous retrouvez au commissariat. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole, ta bonté, ta fidélité. Merci parce que ce sont des paroles qu'en effet, Seigneur, elles ont un sens. Elles ont un sens. Ce n'est pas tant les formes que le fond qui est important. Et le fond, c'est Jésus. Le fond, c'est l'Évangile. Le fond, c'est notre cœur, c'est notre conscience, c'est notre esprit, c'est notre vie, Seigneur. Alors je te rends grâce et je te remercie. Merci, Seigneur, parce que Quelquefois, il y a des choses que nous pouvons faire avec facilité, mais qui nous desserrent en essayant d'arracher des herbes ou des arbustes. Puis quelquefois, nous nous trouvons devant un arbre. Puis cet arbre, quelquefois, eh bien, il va tomber. L'arbre que je suis peut tomber, parce que il a été miné de l'intérieur. Mais Seigneur, moi je veux me souvenir que c'est toi qui nous guéris. Tu nous guéris de nos maux physiques, tu nous guéris de nos maux moraux, tu nous guéris dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, je compte sur toi. Je te demande d'encourager mes amis, Seigneur, qui sont là, qui ont entendu ta parole et ceux qui l'entendront plus tard, de telle manière, Seigneur, qu'ils comprennent qu'en effet, Seigneur, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit, Jésus. Et nous voulons nous présenter devant toi pour que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse. Et elle se fasse glorieusement. Elle se fasse, Seigneur, d'une manière, en effet, tellement merveilleuse, admirable, Seigneur, pour porter véritablement le nom de chrétien et être reconnu comme tel, non pas en raison de ce que nous proclamons, de ce que nous disons, mais de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.